18h-20h,
votre grand journal du soir,
Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos à la une de l'actualité ce soir. Regardez autour de vous, qui porte encore des masques? Y a-t-il relâchement des gestes barrières? Une deuxième vague est-elle possible? On va poser concrètement les choses ce soir dans votre journal, Sébastien Crête. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
18h20, ils ont été reçus un par un et ça continue demain. La première rencontre entre les syndicats et Jean Castex à Matignon, le secrétaire général de Force Ouvrière Yves Verrier est mon invité dans 20 minutes. Il était à la mi-journée devant le Premier ministre. 18h30, les grandes voix. La réforme des retraites est-elle déjà enterrée? La relance version Bruno Le Maire qui était sur Europe 1 ce matin. Laetitia Krupa et Jérôme Sainte-Marie. Vos questions, bien sûr, au 39-21. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
C'est votre grand journal du soir pour écouter ensemble le monde changer. Et c'est bien sûr jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Personne ne met les masques, c'est plus obligatoire, le gel, c'est pareil. On s'est beaucoup relâché sur le corona. Quoi.
Les Français font tomber les masques et les médecins s'inquiètent. Attention au relâchement, le scénario d'une deuxième vague devient de plus en plus probable.
Mais où en est-on réellement? Où en est-on réellement au niveau de l'épidémie? Pourquoi une telle alerte? Le virus circule-t-il? On va s'arrêter sur ces questions ce soir.
Les syndicats à Matignon ont tous eu la même réponse. Relancer la réforme des retraites, ce n'est pas le moment.
La CFDT a dit que c'était clairement pas le sujet de l'été, le sujet de l'automne. Mais clairement, la priorité aujourd'hui, c'est l'emploi.
Laurent Berger, on entendra aussi ce qu'en dit le MEDEF.
Dans ce journal également, le projet Center Park s'abandonnait dans l'Isère. Victoire des écolos, mais inquiétude pour l'emploi.
Le chantier de Notre-Dame, les projets un peu fous ont vécu. C'est finalement une reconstruction à l'identique de la flèche qui se dessine.
Cette flèche telle qu'elle était à l'origine permet de respecter l'homogénéité de l'ensemble de la toiture de la cathédrale, de respecter sa beauté.
Et puis on vous donnera le calendrier de la saison de Ligue 1 avec un classico PSG-OM en tout début de saison. La Bourse de Paris décroche ce soir d'1,2% à 4921 points.
La tendance météo à Nice.
Avec demain une journée qui sera la moins belle de la semaine. La perturbation qui touche le nord-ouest depuis deux jours va s'étendre demain sur tout le pays. Alors au programme nuages, humidité et baisse des températures. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Thierry Dagiral et Sébastien Krebs.
C'est vrai qu'on a tendance à le laisser de côté, ce masque qui tient chaud, et à oublier parfois la distance. C'est vrai aussi que nos dirigeants n'ont pas vraiment montré l'exemple ces derniers jours lors des passations de pouvoir. D'où ce rappel à l'ordre venu des experts du Conseil scientifique. On va y venir. D'abord, le constat, Hélène Terzian, vous venez de faire un tour dans Paris. Vous êtes sur les quais de la Seine. C'est très net.
Effectivement, dans la rue, les masques se font plus rares. Sur les terrasses, les clients s'inquiètent peu, finalement, de boire leur café ou leur bière tout près de la table voisine. Pour Aïcha, c'est surtout dans les boutiques qu'elle ressent un relâchement ces derniers jours.
Plus personne met les masques. Dans les magasins, partout, ils nous demandent plus. C'est plus obligatoire. Le gel, c'est pareil. C'est à disposition, mais ils nous forcent pas à le mettre. Dans les magasins, on peut rentrer à plusieurs, c'est plus un certain nombre. Je trouve qu'on s'est beaucoup relâché sur le corona, quoi.
Pour d'autres, c'est dans les transports que le relâchement dans le respect des gestes barrières est flagrant, avec la règle d'un siège sur deux moins respectée qu'avant. Même constat au sein de nombreuses entreprises, et ce, malgré des règles très strictes, raconte Aurélien.
Alors on a le port du masque obligatoire, mais ça c'est quand même vachement détendu. Pour le coup, dans les bureaux et salles de réunion, à partir du moment où les gens ont passé 2-3 heures ensemble, ce temps fait qu'ils se sentent plus proches et ils vont retirer leur masque. Donc oui, dans le couloir on met son masque, à la machine à café on met son masque, mais en salle de réunion beaucoup moins.
Une soignante que j'ai croisée tout à l'heure déplore cette situation. Elle me confiait que l'exemple devait venir d'en haut, à l'Assemblée nationale. Les députés ne portent pas bien leur masque, m'a-t-elle dit. Quant aux membres du gouvernement, ils devraient tous en porter un dans chacune de leurs visites officielles.
Voilà, c'est dit Hélène Terzian dans les rues de Paris.
Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
On entend les médecins depuis hier déjà tenir des discours à nouveau alarmistes. Les Français ont abandonné les gestes barrières, on court le risque d'une deuxième vague. Clairement, on en est où aujourd'hui de cette épidémie? Qu'est-ce qui justifie une telle alerte?
Alors, on est à 500 nouvelles contaminations par jour et c'est suffisant pour faire repartir une épidémie, prévient le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. 100 nouveaux patients qui entrent à l'hôpital chaque jour pour un cas de Covid. Ça n'empêche qu'on est dans un scénario de maîtrise de l'épidémie avec des foyers encore localisés, circonscrits. Mais c'est justement parce que, jusque-là, on portait des masques, on faisait attention à se laver les mains, que la circulation du virus restait maîtrisée. Il suffit de peu de choses pour que ça reparte. Ces jours-ci, les scientifiques observent de plus en plus de jeunes qui contractent contractent le virus. Et pour eux, l'explication, eh bien, c'est qu'ils font moins attention que les personnes âgées, pour qui il y a un vrai enjeu de survie. Même explication, le relâchement en Mayenne. Le nombre de cas a doublé en 2 semaines à 2 reprises, notamment à Laval et à l'Huisserie, avec 219 cas positifs recensés cette semaine. Résultat, une campagne de dépistage massive est lancée pour 300 000 personnes du secteur. D'ailleurs, seulement la moitié des gens qui ont des symptômes se font tester. Pourtant, aujourd'hui, on est en surcapacité de tests.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela ne fait plus de doute aujourd'hui. On n'échappera pas à cette fameuse deuxième vague?
Oui, clairement, pour les scientifiques, la question n'est pas de savoir s'il y aura une deuxième vague, mais plutôt quand et de quelle intensité. On n'est qu'à 12 ou 15% de taux d'immunisation au mieux selon les régions. Il y a des endroits où on est bien plus bas. Ça ne suffit pas. Le virus a encore beaucoup de personnes potentielles à contaminer, donc il va revenir. Logiquement, ça devrait être autour d'octobre-novembre, mais si on se relâche trop, l'épidémie peut reprendre dès cet été, selon le Conseil scientifique.
Merci Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. Vigilance donc, hein, quand bien même on sortira de l'état d'urgence sanitaire samedi.
Les soignants, eux, seront bien mis à l'honneur le 14 juillet, Sébastien.
Mais les soignants, mais aussi les représentants des métiers les plus sollicités, caissiers, enseignants, forces de l'ordre, pompiers, agents funéraires, 1400 invités issus de la société civile seront conviés en tribune Place de la Concorde pour la cérémonie mardi prochain. Un tableau d'hommage leur sera consacré et sachez qu'il n'y aura pas qu'un défilé aérien, il n'y aura pas de défilé de troupes au sol cette année.
On en vient maintenant à l'actualité sociale et à cette fin de non-recevoir adressée par les syndicats au Premier ministre. La réforme des retraites, c'est non.
Ouais, les partenaires sociaux défilent depuis ce matin à Matignon. Première prise de contact avec Jean Castex, avec de nombreux sujets sur la table et notamment donc celui des retraites, le plus explosif. Ce n'est pas le moment, estime le leader de la CFDT, Laurent Berger, pourtant favorable au système à points.
La CFDT a dit que ce n'était clairement pas le sujet de l'été, le sujet de l'automne. Vous le savez, la CFDT est attachée à un système universel des retraites, mais clairement la priorité aujourd'hui c'est l'emploi. Donc on a dit très clairement au Premier ministre que la question des retraites ne devait pas venir polluer la question de la relance économique et sociale et la question de la préservation et du développement de l'emploi.
Voilà Laurent Berger pour la CFDT, même tonalité chez Force Ouvrière, très hostile à un allongement de la durée de cotisation. Yves Verrier sera d'ailleurs mon invité juste après le journal.
Et c'est suffisamment inhabituel pour être souligné, même le MEDEF est d'accord, mieux vaut repousser ce débat à plus tard. Écoutez Geoffroy Roux de Bézieux.
Je ne crois pas qu'il soit sage, utile et prioritaire d'en discuter cet été. Entre parler financement des retraites à l'automne et en parler le 17 juillet, il y a quand même plusieurs mois. Or, la priorité, c'est de consolider ce début de reprise. Et c'est ça qui permettra de discuter sereinement d'abord du financement des retraites et puis éventuellement, en 2021, du système universel sur lequel nous, on a des réserves, mais sur lequel on est prêt à discuter plus sereinement que dans les jours et les semaines qui viennent.
Le patron du MEDEF, propos recueillis à Matignon par Aurélien Fleureau.
Les salariés du secteur aéronautique ont à nouveau manifesté à Toulouse aujourd'hui, notamment des sous-traitants très inquiets du plan social chez Airbus, cortège auquel s'est joint Jean-Luc Mélenchon.
Et en Moselle, 300 salariés de l'usine Smart à Ambar ont débrayé aujourd'hui au moment où le CSE se tenait avec la direction du groupe Daimler qui compte vendre le site.
Il est 18h07, la suite du journal sur Europe 1. Thierry Dagiral, Sébastien Krebs.
Et nous allons en Isère à présent. C'est un projet vieux de 13 ans, une bataille féroce entre militants écologistes et élus locaux. Finalement, le gigantesque Center Parcs de Roibon ne sortira jamais de terre. Le groupe Pierre et Vacances abandonne.
Et on s'en souvient, une ZAD s'était installée pour empêcher la construction de ce parc aquatique en pleine forêt. Victoire donc pour les défenseurs de l'environnement. Mais sur place, c'est surtout des emplois que voient s'envoler les habitants, Jean-Luc Boujon.
Absolument, hein. Ce projet c'était 700 emplois à venir dans une région, le Chambaran, un peu loin de tout. Loin de Grenoble, loin de Lyon, loin de Valence, il faut entre 3 quarts d'heure et 1 heure et quart pour rejoindre ces villes. Donc le parc de loisirs, c'était une possibilité de retenir les jeunes de Roibon sur place, alors que le village est en train de se dépeupler, explique le maire Serge Perrault.
Économiquement, c'est quelque chose de très grave. Hein. Nous, il n'y a pas d'emploi, il n'est pas question de créer des usines sur nos territoires. C'est une commune qui périclite, il y a une baisse d'habitants régulièrement. Aujourd'hui, on est autour de 1200. Alors, on était autour de 1400. Quoi. Alors que ce projet-là, c'est de l'embauche locale qui nous permettrait de redynamiser tout ce plateau de Chambaran.
Voilà une vision partagée par de nombreux habitants.
C'est une catastrophe pour le village parce qu'il n'y a déjà rien à faire ici. Les maisons sont à vendre maintenant.
C'est dommage pour une région où il y a pas mal de jeunes qui cherchent de l'emploi ou quoi que ce soit. Il n'y a rien.
Mais c'est une vision des choses battue en brèche par les opposants au projet. Pour Stéphane Perron, ces emplois étaient un mirage.
On connaît ce qui se passe dans les autres center parks. La plupart des emplois, c'est des emplois de nettoyage de cottage. 9 à 12 heures par semaine. 350 euros par mois? Est-ce qu'on sort des gens de situation précaire, du chômage, avec 350 euros par mois? Parce que qui c'est qui va faire de l'argent tout de suite? C'est Pierre et Vacances en vendant des cottages à prix d'or à des investisseurs.
Voilà, la question maintenant, c'est de savoir si cela va rebattre les cartes aussi en ce qui concerne les autres projets Center Parcs en France, notamment ceux du Jura ou de Saône-et-Loire, pas si éloignés que cela de Roibon.
Jean-Luc Boujon à Roibon dans l'Isère pour Europe 1. Elle s'appelait Mélanie Lemay, elle avait 25 ans. Les honneurs militaires ont été rendus ce matin à cette jeune gendarme fauchée le week-end dernier lors d'un contrôle routier dans le Lot-et-Garonne. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'a décorée à titre posthume des insignes de la Légion d'honneur.
Et puis Sébastien, un rapport important sur la radicalisation.
Il faut agir vite, écrivent des sénateurs qui remettent une quarantaine de propositions pour mieux identifier, mieux détecter les discours et comportements déviants qui mènent au séparatisme islamiste. On vous donnera les détails dans le journal de 19h.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Thierry Dagiral.
À suivre dans votre journal de 18h, le chantier de Notre-Dame. On s'oriente vers une reconstruction à l'identique de la flèche.
Et puis on vous donnera le programme de la Ligue 1 qui démarre fin août avec de belles affiches dès les premières semaines.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, la suite avec Sébastien Krebs et Thierry Dagiral.
Quel visage pour Notre-Dame après sa reconstruction, après des mois de débats. Sébastien, les choses semblent se dessiner.
Oui, on se souvient que les projets les plus fous ont circulé pour remplacer la flèche effondrée au moment de l'incendie de la cathédrale. Au final, c'est un projet bien plus classique qui semble faire consensus, celui d'une reconstruction finalement quasiment à l'identique, hein, Romain Oquet, c'est la ministre de la Culture elle-même qui l'évoque.
Oui, pour Roselyne Bachelot, il y a un large consensus, dit-elle, pour reconstruire la flèche de Notre-Dame comme l'avait conçu Viollet-le-Duc. C'est le choix qui devrait être fait par la commission du ministère de la Culture qui travaille sur ce dossier. Une commission d'experts qui auditionnait justement cet après-midi l'architecte en chef de la cathédrale. Leur avis sera connu d'ici quelques jours, mais on sait déjà qu'ils sont plutôt favorables à une reconstruction à l'identique. La meilleure option, en tout cas pour Pascal Jacob, président de l'association Restaurons Notre-Dame.
Cette flèche telle qu'elle était à l'origine permet de respecter l'homogénéité de l'ensemble de la toiture de la cathédrale, de respecter sa beauté également. Et si on conserve les matériaux d'origine, en l'espèce le bois, c'est effectivement une très bonne chose puisque le bois est le matériau le plus durable. Donc tout cela est un choix, serait un choix cohérent qui respecte le mieux le patrimoine historique mondial.
Alors la décision de la commission atterrira sur le bureau de Roselyne Bachelot et même si cet avis n'est que consultatif, il est généralement suivi par le ministère de la Culture. Il faudra encore convaincre Emmanuel Macron, c'est lui qui aura le dernier mot. Et on sait que le président n'était pas forcément favorable à une flèche à l'identique. Il penchait plutôt pour une reconstruction inventive de ce symbole de Notre-Dame.
Voilà, bon, on verra quelle est la décision au final. Merci Romain Oquet.
Allez, on termine avec le foot, demandez le programme. Ça y est, on a le calendrier enfin de la prochaine saison de Ligue 1.
Un top départ le 22 août. Bonsoir Simon Rubin.
Bonsoir.
Avec de grosses affiches dès le début de la saison cette année hein, et un classico PSG-OM qui va arriver très très vite.
Oui, alors dès la troisième journée, le 13 septembre, Paris recevra Marseille. Pour le coup, les Marseillais ne sont pas vernis puisqu'ils vont enchaîner les gros matchs. Première journée contre Saint-Etienne, le PSG, donc on vient de le dire. Et puis ensuite, Lille et Lyon, quatre adversaires directs pour le podium dès les six premières journées. Alors le PSG, tenant du titre, aura lui un début plus tranquille contre Metz le 23 août, même si le match pourrait être décalé si les Parisiens jouent la finale de la Ligue des Champions qui est programmée à la même date. Le PSG qui se déplacera à Lens le 30 août pour l'un des temps forts de la saison. Ce sera le retour à domicile en Ligue 1 des 100 et or qui auront droit donc à ce qui se fait de mieux du côté des supporters lensois. On est d'ailleurs écœuré à l'idée de ne pas pouvoir aller au stade si jamais le nombre de spectateurs est toujours limité à 5000. Alors quelques autres belles affiches dans la première moitié de saison. Lyon-Saint-Etienne, ce sera le 8 novembre. PSG-Lyon le 13 décembre. Et puis notez qu'on aura des matchs pendant les fêtes de Noël, le mercredi 23 décembre. Ce sera une sorte de Boxing Day à la française.
Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Un dernier mot, les Césars ont voté leur nouveau statut aujourd'hui après le fiasco de la dernière cérémonie, on s'en souvient, plombé par l'affaire Polanski. Désormais, il y aura parité intégrale au sein des instances dirigeantes et c'est un tandem homme-femme qui présidera l'Académie.
Et c'était le journal signé Sébastien Krebs. Merci Sébastien, rendez-vous bien sûr à 18h30 pour le rappel des titres. Tout de suite la météo. Anissa, demain sera la moins belle journée de la semaine.
Exactement Thierry, le temps se dégrade nettement demain avec cette perturbation qui nous arrive de l'Atlantique. Alors en fait c'est cette perturbation qui touche le nord-ouest depuis quelques jours maintenant. Eh bien elle va se généraliser sur tout le pays et épargner personne. Alors avec demain matin de la Normandie aux Hauts-de-France des petites pluies, au fil des heures ces pluies vont se décaler direction la Lorraine. Dans l'après-midi le temps devient lourd avec d'ailleurs sur les Pyrénées et la région Auvergne-Rhône-Alpes des orages qui éclatent dans l'après-midi, qui pourraient être localement forts, avec de la grêle par exemple. Forcément, il a fait très chaud, l'activité électrique sera assez importante. Du Pays Basque à l'Alsace, avec une belle diagonale qui coupe la France en deux, et bien là c'est un ciel très couvert. Et sur le quart nord-ouest, je vous ai quand même trouvé une bonne nouvelle dans toutes ces mauvaises nouvelles, sur le quart nord-ouest du pays, des Pays de Loire jusqu'aux Hauts-de-France, donc à l'arrière de la perturbation, c'est le soleil qui revient demain dans l'après-midi. Donc elle va passer très vite cette perturbation et elle n'est pas très très active. Les températures demain matin sont toujours très douces, 13 à 22 degrés, 13 à Brest, 17 à Paris, 19 à Bastia, 23 à Perpignan. Et au meilleur de la journée, toujours frais dans le nord avec 18 à Dunkerque, 21 à Caen et Amiens, 24 à Paris et Bordeaux. Ailleurs, c'est estival, 25 degrés à Nantes, 28 à Clermont-Ferrand et Colmar, 32 à Chambéry, 33 à Lyon sous les orages et 35 la maximale pour Nîmes.
Et la météo des plages à 18h30.
Votre grand journal du soir se poursuit, Thierry Dagiral avec votre invité dans un instant.
La réforme des retraites, celle dont les syndicats ne veulent pas entendre parler pour le moment. Ils ont été reçus toute la journée par le nouveau Premier ministre. Yves Verrier de Force Ouvrière entre en studio, son interview dans deux minutes sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Thierry Dagiral, et votre invité ce soir, vous recevez le secrétaire général de la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière.
Bonsoir Yves Verrier.
Bonsoir.
Vous étiez à Matignon à la mi-journée. Comment vous l'avez trouvé, le gaulliste social Jean Castex ?
C'est quelqu'un qui a pris le soin de immédiatement rencontrer les organisations syndicales, les organisations patronales, dans un contexte à la fois où la question de la santé est importante pour les salariés. On l'a vu pendant la période de confinement où il a fallu batailler pour protéger la santé de ceux qui devaient absolument continuer de travailler, que ce soit dans le secteur de la santé ou l'approvisionnement, etc. Ouais. Et dans un contexte de crise économique avec l'avalanche des annonces de plans de suppression d'emplois. Donc cette démarche est plutôt de bon augure, on va dire. Maintenant,
ça part bien, mais vous attendez maintenant de voir.
La question derrière, c'est qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'on a multiplié ces semaines passées, écoulées, les réunions avec les pouvoirs publics, y compris trois fois avec le président de la République, ce qui est quand même exceptionnel. Mais
il y a un consensus ce soir, en tout cas entre tous les syndicats, pour le moment. On ne parle pas de la réforme des retraites.
Ben non, on n'en parle
pas.
Je vais vous dire, j'ai sous les yeux le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Chaque année, le Conseil d'orientation des retraites fait un rapport sur la situation financière des régimes de retraite. Et que dit-il ce rapport ? C'est que du fait des incertitudes provoquées par la crise sanitaire, il ne sera pas en mesure d'établir ce rapport. Le bilan statistique est encore provisoire sur la surmortalité. Il y a de fortes incertitudes sur le devenir de la maladie, des effets économiques encore très incertains sur 2020, notamment sur l'emploi et l'évolution des rémunérations. Comment voulez-vous qu'on aille discuter sereinement, ne serait-ce que l'équilibre des régimes de retraite ?
Pourtant, Yves Verrier, l'allongement de la durée de cotisation semble assez inévitable tout de même.
Non, je ne crois pas. Ce serait même contre-productif. En ce moment, que se passe-t-il dans les entreprises où des suppressions d'emplois sont annoncées ? Nos syndicats sont mobilisés. Hier, par exemple, à Airbus, plus de 5000, 6000, près de 7000 salariés mobilisés à l'appel de FO en particulier.
Malgré l'aide de l'État.
Pour contester les suppressions d'emplois, dans un contexte où il y a aide de l'État, que va-t-on faire ? On va tout faire pour limiter au maximum les suppressions d'emplois, empêcher les suppressions d'emplois contraintes, les licenciements. Et ça se traduit comment ? Eh bien, par des départs volontaires, mais qui part volontairement aujourd'hui ? Ce n'est pas les jeunes, parce que les jeunes, dans une situation incertaine, vous y réfléchissez à deux fois.
Ce sont quasiment
des retraites anticipées ou des départs anticipés. Ouais. Et on va nous dire qu'on va durcir les conditions de départ à la retraite ? Et comment va-t-on faire dans ce cas-là pour limiter justement les licenciements et du coup pour ouvrir de l'emploi aux jeunes ? Il y a tous ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, comme on dit, qui vont rechercher un véritable emploi dès les semaines, qui viennent. Donc, ce n'est pas le moment de dire à ceux qui en ont encore à 62 ans, 63 ans, 64 ans, de dire, vous allez continuer parce qu'il faut qu'on fasse des économies sur les retraites.
Yves Verrier, autre point, vous avez abordé avec le Premier ministre et la ministre du Travail la réforme de l'assurance chômage qui est en pause
pour le moment ?
Oui, alors, on a tous, là encore une fois, c'est d'ailleurs, je trouve, exemplaire du point de vue du sujet des réformes des retraites. Mmh. Écoutez-nous de temps en temps. On ne nous a pas écoutés en juin de l'année dernière, 2019, quand on a dit « Attention, ce que vous proposez comme réforme va se traduire par des situations dramatiques pour nombre de demandeurs d'emploi. » Et la crise sanitaire n'a fait que révéler et accentuer ce sur quoi nous avions alerté. Du coup, certaines des dispositions ont dû être suspendues au risque de laisser sur le bord du chemin démunis de nombreux demandeurs d'emploi, notamment les saisonniers, ceux qui ont des contrats courts, qui ont du mal à joindre les deux bouts entre deux contrats. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on demande, nous, c'est qu'on abandonne ces dispositions de cette réforme, qu'on revienne aux dispositions de la convention que nous avions négociée, là, pour le coup, entre les employeurs et les salariés en 2017. Mmh. Et donc, ce qu'on attend du Premier ministre, c'est qu'il confirme que cette réforme de juin 2019, mise en place par le gouvernement en juin 2019, ne s'applique pas.
Qui était prévue en septembre, donc là, pour l'instant, c'est gelé.
Alors, il y avait des dispositions qui sont entrées en vigueur au mois de novembre de l'année dernière, sur l'entrée dans les droits. Mmh. Il y a le calcul de l'allocation, ça devait rentrer en avril, ça a été reporté à septembre. Eh bien, on ne veut pas qu'elle rentre du tout en compte. Et puis, il y a d'autres dispositions, comme le rechargement des droits pour les contrats précaires qui sont importantes, sur lesquelles il faut, là aussi, revenir aux dispositions qui précédaient.
Yves Verrier, un mot du Ségur de la Santé. La nuit dernière, le gouvernement a proposé 180 euros net par mois pour les personnels hospitaliers hors médecins. Vous demandiez, vous, 300 euros. Vous dites quand même banco ce soir ?
Bah, mon syndicat, dans le secteur de la santé, c'est 1 million de salariés. Le syndicat FO, dans le secteur de la santé, a batailler, bagarrer dans cette négociation pour qu'on obtienne ce qu'on appelle une mesure socle. Ce qui veut dire qu'il s'applique de la même façon à tout le monde. Évidemment, quand c'est plus d'un million de personnels concernés, en masse, ça fait vite beaucoup. Donc, on a bataillé pour essayer de s'approcher au mieux de ce qui nous paraissait le minimum, qui soit sensible. Il ne faut pas oublier que beaucoup, la moitié de ces personnels sont des personnels de catégorie C, près de la moitié. C'est des salaires qui tournent autour de 1500 euros par mois. Donc là, on obtient un compromis à 180 euros, qui n'est pas exactement le point de départ pour nous, évidemment.
Mais on a
bataillé aussi parce que notre syndicat, nos syndicats FO connaissent bien ce que sont les carrières sur des dispositifs qui vont améliorer les carrières immédiatement, notamment, par exemple, pour les aides-soignants qui vont passer dans ce qu'on appelle la catégorie B, ils vont franchir un cap, pour les infirmières également. Ce qui est important aussi pour, évidemment, les personnels qui vont en bénéficier en termes de déroulement de carrière, mais c'est l'objectif, rendre attractifs les métiers du secteur de la santé, parce qu'on a besoin de rendre attractifs les métiers du secteur de la santé, et on va avoir besoin d'eux s'il y a rebond de l'épidémie.
Yves Verrier, un dernier mot rapidement sur Alain Griset, nouveau ministre des PME. Il était avant syndicaliste, vous le connaissez bien, président de l'Union des entreprises de proximité. C'est un bon signe pour vous.
Ce que j'ai souvent dit, c'est qu'en tant que syndicaliste, M. Alain Griset, comme tout syndicaliste, espérait être entendu. Maintenant, il va être attendu. Et l'enjeu est majeur parce qu'il va être attendu par ses collègues employeurs des très petites entreprises, évidemment.
C'est les artisans.
Il va être attendu parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'emplois dans ces très petites entreprises et que beaucoup risquent de souffrir de cette crise économique. Et donc, il est dans une autre position. Je lui souhaite le meilleur, mais le meilleur pour les salariés concernés. Et donc, on va être attentif et il va être attendu par nous aussi.
Yves Verrier, j'espère que vous serez à l'écoute demain d'Europe 1, puisque la Elisabeth Borne, que vous avez vue ce matin, ministre du Travail, sera l'invitée de la matinale de Pierre Devineau à 8h15. Grand merci à vous, monsieur.
Merci à vous, bonsoir. Europe 1.
À suivre, Thierry Dagiral.
Le rappel des titres et la météo des plages, puis les grandes voix. Ce soir, Laetitia Krupa et Jérôme Sainte-Marie, emploi, relance et méthode Castex, dans un instant sur Europe 1.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Avec le rappel des titres de l'actualité, Sébastien Krebs.
Ce sera la première épreuve de force contre le nouveau gouvernement. À peine sorti du premier rendez-vous à Matignon, la CGT appelle à la grève le 17 septembre. Toujours rien de concret pour l'emploi et les salaires. Il faut passer de la parole aux actes, écrit le syndicat dans son communiqué. Aujourd'hui, les partenaires sociaux ont tous rejeté notamment l'idée d'une discussion dès l'été sur la réforme des retraites. Deux policiers renvoyés en correctionnel pour des violences contre un manifestant. C'était c'était en décembre dernier à Lyon. L'homme roué de coups de matraque avait perdu 9 dents et eu la mâchoire fracturée. Le rapport qui alerte sur la radicalisation islamiste. Les sénateurs rendent public une quarantaine de propositions pour mieux détecter les comportements et discours déviants à l'école ou dans les associations. On vous donnera tous les détails à 19h. La seconde vague de l'épidémie est-elle inéluctable? Le conseil scientifique adresse un rappel à l'ordre. N'oublions pas de mettre le masque. En Australie, les 5 millions d'habitants de Melbourne ont été reconfinés aujourd'hui. Un revers pour Donald Trump. La Cour suprême estime qu'un procureur de New York est bien en droit de demander à consulter ses déclarations d'impôts, ce que le président a toujours refusé. Le président ne jouit pas d'une immunité absolue, estiment les juges. Enfin, Chris Froome change d'équipe après 10 ans chez Sky, qui est devenu Ineos depuis 2019. Le quadruple vainqueur du Tour quittera à la fin de la saison l'équipe britannique pour rejoindre une équipe israélienne, Startup Nation, en 2021.
Merci Sébastien. Édition complète à 19h sur Europe 1. La météo des plages, Anissa. On commence par les plages de la côte atlantique demain.
Oui, avec un ciel nuageux demain sur toute la côte atlantique. Le soleil fera quelques apparitions. C'est en Loire-Atlantique qui fera le plus chaud demain, avec du côté de Noirmoutier, 24 degrés sur la plage, 19 dans l'eau. Et attention à vent d'ouest qui souffle plus au sud du côté d'Arcachon. Nous aurons 22 degrés sur le sable et 20 degrés dans l'eau. En Méditerranée, le soleil sera un peu plus voilé demain sur le Languedoc et l'Hérault. Même jusque sur les Bouches-du-Rhône d'ailleurs, il y a un petit peu plus de nuages. Du côté de la Ciotat, nous aurons 29 degrés sur la plage, 19 dans l'eau. Elle est encore fraîche, hein, la Méditerranée demain.
Ouais.
Sur la Côte d'Azur, à Sainte-Maxime, 24 degrés dans l'eau. 38 degrés sur la plage en plein soleil du côté de Sainte-Maxime, donc pensez à vous protéger. Et le vent du sud qui souffle jusqu'à 45 km/h en rafale. Dans une heure, je vous propose d'aller du côté des plages de Corse où il va faire très chaud demain, et sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord.
Et bien, je vous suivrai. Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Thierry Dagiral. On décortique l'actu jusqu'à 19h avec les grandes voix de ce soir. Laetitia Krupa, spécialiste en communication politique, et Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut Pauline Vox.
Et bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être sur Europe 1 avec nous ce soir. Dites donc, réformer sans fâcher, c'est le casse-tête de Jean Castex, et ce ne sera pas facile pour le Premier ministre. Laetitia.
Ce n'est pas facile, en tout cas il l'a dit, qu'il voulait aller vite, tout de suite, hein, ouais. Dans sa première interview.
Mais quand on entend les syndicats, voilà, notamment Yves Verrier qui était là à l'instant...
Ah bah oui, mais ça c'est normal, les syndicats installent le rapport de force.
Il y a l'envie et il y a la réalité, oui.
Le Premier ministre a dit, ma méthode c'est le dialogue social. Mmh. Donc il a reçu les syndicats ont la main, on va dire, puisqu'ils savent que le Premier ministre veut avancer avec eux. Mmh. Voilà, pas sans eux. Donc forcément, ce qui est un peu normal, hein, ça arrive souvent quand on sait qu'un bras de fer va arriver, on installe tout de suite le rapport de force avec une journée de mobilisation et ensuite, on va discuter. De toute façon, les syndicats, là, pour l'instant, n'ont rien. Personne ne sait à quoi va ressembler ce plan de relance. On sait qu'il va arriver relativement vite. Là, le Premier ministre ne donne pas de date. On nous avait dit que ce serait avant la fin de l'été.
On va en parler tout à l'heure.
À partir de là, ouais. On pourra rediscuter et manifester, etc. Là, c'est simplement, ouais. On installe le rapport de force.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, c'est très difficile, effectivement, de mener ces réformes parce que l'opinion, pour l'essentiel, n'en veut pas vraiment. Ouais. Vous savez, si le Premier ministre est redevenu populaire, le précédent, Édouard Philippe, à la faveur du confinement, et si même le président de la République avait gagné en popularité, c'est aussi parce qu'ils avaient stoppé les réformes, parce qu'ils avaient suspendu l'application des différentes réformes, et notamment pour l'application de la réforme, notamment de la mitigation du chômage, et la réforme des retraites. Mmh. Et cela avait été reçu positivement. Les gens s'étaient dit, tiens, finalement, on va pouvoir souffler, parce que les réformes actuelles sont des réformes où la plupart des gens ont plutôt à perdre que
mais
gagner.
Mais c'est le Premier ministre lui-même qui remet ça sur la table.
D'adaptation. Oui, parce qu'il n'a pas le choix pour deux raisons que de réformer. Probablement parce que d'abord, c'est sa conviction. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron et M. Castex sont convaincus, La République En Marche en général, qu'il faut réformer la France. Ça, tout le monde le pense plus ou moins, mais qu'il faut la réformer ainsi, dans un sens plus libéral.
Et il faut arriver avec un bilan à la présidentielle.
Voilà, c'est leur conviction. Mais c'est par ailleurs leur intérêt politique. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, les 24% de Français qui ont choisi Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, plus une bonne partie de ceux qui avaient choisi François Fillon, ceux-là, donc à peu près le gros tiers des Français qui soutient régulièrement Emmanuel Macron, qui d'ailleurs, vous avez vu dans les intentions de vote à la présidentielle, fait un score assez considérable, hein, entre 25 et 30%, eh bien ces Français-là, ils sont minoritaires, mais ils sont déterminés à réformer le pays. Si Emmanuel Macron ne leur donne pas satisfaction, il n'aura plus de base électorale de premier tour à la prochaine présidentielle.
Et c'est bien cet électorat qui fera la différence dans 2 ans, Laetitia Crupin.
En tout cas, c'est une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron. Et il le sait, c'est impossible d'arriver en 2022 sans avoir fait cette réforme des retraites. C'est impossible. Donc, il l'a dit certainement à Jean Castex, puisque tout de suite, dès son arrivée, il a parlé de cette réforme des retraites.
Ça a été mis sur la table tout de suite.
Il a dit qu'effectivement, on allait rouvrir le dialogue. Alors, bien sûr, il ne va pas la faire tout seul. Mmh. Il a bien vu que Édouard Philippe avait quand même utilisé le 49-3 à l'Assemblée nationale, ce qui a donné un sentiment de passer au-dessus du peuple, justement, de ne pas écouter la base, de ne pas écouter ceux qui sont le premier concerné. Cette retraite, c'est quand même nous. Des fois, on l'oublie. Parfois, on parle comme ça de théorie politique, mais enfin, la retraite, ça concerne tout le monde. Donc, tous les Français comprennent à peu près ce qui va leur arriver. Enfin, c'était quand même compliqué parce que la pédagogie a été très mal faite. Ouais. Et là, voilà, il veut la faire, sauf qu'aujourd'hui, les syndicats ont dit non.
Bien sûr.
On
et comment, Jérôme Sainte-Marie, comment on ne met pas le feu aux poudres avec un déficit à 30 milliards, c'est ça 30 milliards ?
Oui, c'est-à-dire quel est le rapport par rapport aux réformes ?
Comment on arrive à réformer justement avec ce déficit ?
Ah bah c'est tout le problème, c'est qu'actuellement effectivement les réformes ne peuvent pas s'accompagner d'un donnant-donnant en quelque sorte. On ne peut pas concéder, aider d'un côté, protéger davantage, puis réformer. Non, il faut réformer. Mais encore une fois, La République En Marche, c'est le parti de la réforme. C'est, vous savez, une des hantises d'Emmanuel Macron et de ses amis, c'est de voir se reconstituer le clivage gauche-droite.
Ouais.
C'est d'ailleurs, de ce point de vue-là, les élections municipales n'ont pas été très réconfortantes pour eux, puisqu'au niveau local, dans les villes, le clivage gauche-droite a quand même pas mal résisté. Mmh. Et La République En Marche, Emmanuel Macron, ont permis la réunification des libéraux de gauche et de droite, des réformateurs de gauche et de droite, s'ils ne sont pas unis par la réforme, et je verrai même plus loin, s'ils ne sont pas unis par le conflit social. C'est-à-dire que, vous savez, la réforme produit un conflit social. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas nécessaire, comprenez-moi bien, mais dans l'état actuel de la société, ça produit du conflit social.
Ouais.
Et le conflit social produit plutôt un renforcement, en réalité, d'Emmanuel Macron et de ses amis. On l'avait vu en janvier 2018, on l'a vu également après les Gilets jaunes aux européennes. Ça réunit autour de lui, ça soude autour de lui une minorité de Français, mais une minorité importante.
600 jours pour réformer, mission impossible, on en reparle dans un instant.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Thierry Dagiral, entouré des grandes voix, Laetitia Crupa, spécialiste en communication politique, et Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut Pauline Vox.
Et jusqu'à 19h, on parle bien sûr de cette relance dont on a parlé ce matin sur Europe 1, puisque Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, était sur Europe 1. Écoutez.
Nous pouvons faire une transformation profonde de notre modèle économique pour avoir un modèle plus compétitif et surtout plus durable. La relance nous permettra d'accélérer cette transformation et d'avoir des entreprises qui auront de meilleurs produits et des produits plus décarbonés, plus verts, plus respectueux de l'environnement. J'aborde donc cette relance avec beaucoup d'enthousiasme parce que je pense qu'elle peut être une chance pour notre pays.
Voilà, la relance verte, une chance pour notre pays, Jérôme Sainte-Marie.
Ah ben, on touche à quelque chose qui est parfois peu perçu. Beaucoup de gens identifient l'écologie, la décroissance et l'anticapitalisme.
Ouais.
En réalité, l'écologie peut permettre un renouvellement profond des infrastructures. Mmh. Par exemple, si vous créez une norme sur le logement, sur la protection, par exemple l'isolation, eh bien vous obligez, en quelque sorte, vous créez une activité économique. Vous obligez effectivement les particuliers ou les entreprises à changer les conditions d'isolation de leurs locaux. Et donc, ça crée de l'emploi pour les entreprises. C'est de l'emploi forcé et généralement avec une forte subvention publique. Ça ressemble, c'est un modèle qui est très connu, ce qu'on appelle le keynésianisme. C'est du Keynes, en fait. C'est par décision politique et avec une aide de l'État, ce qui provoque peut-être un peu d'endettement, vous créez de l'activité économique en espérant comme ça sauver votre appareil de production, le renouveler. Mais encore une fois, c'est en quelque sorte l'écologie et créer une espèce de capitalisme vert.
Ouais.
Et c'est le pari, à mon avis, qui est fait actuellement.
Ça veut dire qu'il y aura clairement des ponts entre Bruno Le Maire et la nouvelle ministre de l'écologie, Barbara Pompili.
C'est ce qu'il a laissé entendre ce matin. Mais enfin, c'était quand même beaucoup de méthodes couées. Quand on l'écoute, Bruno Le Maire, pour l'instant, on n'a pas de mesures vraiment concrètes. Il a essayé quand même, quand il a dit qu'il voulait inclure l'écologie dans cette relance économique. Il a essayé d'en donner, bien sûr, 2-3 exemples. Alors, c'est drôle parce que quand les politiques donnent des exemples, c'est très, très concret. Vous savez, c'est la petite usine du petit village où on a l'impression que Bruno Le Maire a passé 10 ans parce qu'il connaît exactement quel métier va procéder différemment, etc. Ça donne une impression d'un politique avec un ancrage local. C'est dans l'air du temps. Je crois que c'est un peu à la mode en ce moment, puisque le macronisme, on lui a tellement reproché d'être hors sol que maintenant tous les ministres s'y mettent. Bon, ça commence un peu à se voir quand c'est comme ça de la communication. Pour l'instant, le pauvre Bruno Le Maire, il reprend ce qu'Emmanuel Macron a dit le 29 juin. Hein. Il a dit rien de plus ni moins que de dire on va remettre l'écologie dans le système de production, dans le modèle de production. Encore une fois, voilà, des mots. Oui, d'accord, il y a en tout cas une ligne directrice. Maintenant, on attend de voir les mesures concrètes.
Lounis nous a appelé au 39-21. Bonsoir Lounis.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Lille et vous avez une question à poser à nos grandes voix ce soir. On vous écoute.
Ok. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, parle d'une relance qui favorisera l'industrie. Donc, selon vous, quel secteur doit être soutenu en priorité? Des secteurs plus écologiques, peut-être?
On vient d'en parler, Jérôme Sainte-Marie. Merci à vous, Lounis.
Je n'ai pas la compétence, ouais, en réalité, pour savoir quel secteur doit être soutenu, soyons clairs. Par contre, j'observe, comme pas mal de monde, que les plans sociaux se multiplient et que vous avez des fermetures. Par exemple, une des conséquences de la vente d'Alstom à General Electric, apparemment, ça va être de nouvelles fermetures d'entreprises. Et là, ça devient assez compliqué, parce que les Français sont assez simples, et moi qui connais peu de choses en économie également, c'est-à-dire qu'ils ont envie, à un moment donné, si vous voulez, de voir effectivement des choses concrètes. Ils jugent l'arbre à ses fruits, et ils se disent que si effectivement, et là on leur fait un pari schumpeterien, si vous voulez, en matière économique, en leur disant on va détruire des choses pour pouvoir les renouveler. Les Français voient surtout la destruction, d'autant plus que c'est des raisonnements du genre on va détruire des entreprises comme des canards boiteux, des entreprises obsolètes pour avoir quelque chose de plus performant, de plus vert, de plus moderne. Ça a été tenu par exemple dans les années 80, c'était exactement ce qu'on disait au sujet de la sidérurgie en Lorraine, etc. Et disons que c'est une promesse qui est à moitié tenue. Beaucoup de gens commencent à réfléchir plutôt en termes de protectionnisme qu'en termes de destruction créatrice.
Sur ces plans sociaux, justement, on peut regarder ça, on peut se dire, est-ce que finalement le Covid a le bon dos, quoi. Enfin, voilà, est-ce qu'on ne licencie pas parce qu'il y a eu le Covid, parce que c'est pratique, voilà, mais les deux mois perdus, bah, ça...
Non, je crois qu'il y a...
Il n'y a pas ce sentiment-là aussi.
Mais il y a une réalité économique, hein. Avant de dire que le Covid a bon dos, il y a quand même eu des pertes sèches phénoménales. Et c'est vrai que c'est pour ça que le gouvernement soutient des secteurs qui ont été particulièrement percutés par cette crise sanitaire, qui sont l'aéronautique, tout le secteur du tourisme. Enfin, il y a quand même des moyens, une grande débauche de moyens pour soutenir ces secteurs industriels. Mais pendant combien de temps? Parce que je vous rappelle qu'on est en pleine crise encore. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression que ça y est, c'est derrière nous. Mais non. Alors la rentrée nous annonce effectivement un climat social tendu, avec une crise économique sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire ce matin. Mais il y aura aussi cette crise sanitaire dont on ne sait absolument pas si elle est vraiment terminée. Et Bruno Le Maire a conclu son interview ce matin en disant que la sécurité sanitaire passait avant tout. C'est-à-dire, je vous rappelle quand même Emmanuel Macron, souvent on va vite et on oublie, mais enfin c'était il n'y a pas si longtemps que ça, Emmanuel Macron qui avait dit qu'il ferait passer la sécurité sanitaire. Or là, on a aussi ce problème de crise économique parce qu'on est devant un fait. Donc comment tout ça va s'articuler en septembre, on verra.
Jérôme Sainte-Marie.
En fait, personne ne sait, bien sûr, quel va être le climat social à la rentrée. Tout le monde commence à comprendre que de manière économique, là pour l'instant, ça va être dramatique. Parce que pour l'instant, la société, la France, est un peu sous morphine. Il y a eu quand même ces prêts garantis par l'État. C'était un énorme investissement qui a été décidé par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, qui a aidé et sauvegardé pas mal d'entreprises. Mais tout cela a une fin. Et c'est prêt garanti par l'État, ça correspond grosso modo à 2 ou 3 mois de chiffre d'affaires des sociétés. Ça signifie quand même qu'en septembre, c'est terminé. Et que donc, là, ça va être la réalité crue, va être assez brutale. On peut penser, c'est presque évident, qu'il y aura une explosion du chômage. Une explosion du chômage, ça ne provoque pas forcément, loin de là, des manifestations, des grèves, etc. Au contraire, vous savez, le chômage est le principal adjuvant à l'ordre social. Donc, est-ce que ça va provoquer un tel désespoir qu'on aura des mouvements terribles, les gilets jaunes à la puissance 10, bien qu'au contraire, la France va basculer dans une forme d'apathie. C'est pas du tout facile à déterminer a priori.
Vous restez avec nous, dans un instant, on va parler du style Castex.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Thierry Dagiral, entouré des grandes voix.
La relance, 200 plans sociaux en France, 27 000 emplois menacés. Comment réformer ce pays dans ces conditions-là? Et les auditeurs nous contactent bien sûr au 39-21 comme Alain. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
On écoute votre question aux grandes voix ce soir.
Alors, ma question est un peu en marge, mais en même temps, elle est au cœur du sujet. Mmh. J'entends qu'il serait question de recréer, je me pince, un haut commissariat au plan, qui serait éventuellement confié à François Bayrou. Je ne sais pas qui en serait le responsable, mais est-ce qu'un commissariat au plan, ce n'est pas la politique économique des années 50 ? Est-ce que c'est bien ça qu'il faut faire à l'heure du digital et du monde moderne, si vous voulez. Donc c'est un peu ça ma question.
Merci Alain, vous nous appelez des Yvelines, merci. C'est vrai que ce commissariat au plan a été créé, c'était quoi, sous le général de Gaulle en 1946 ?
Ah je crois, oui tout à fait. Oui.
C'est utile ou pas, Jérôme Sainte-Marie ?
En tout cas, ça a été très efficace pour construire la France.
Voilà.
À cette époque-là,
il faut
en
rappeler
tout cas,
ce que c'est, ça permet de faire des prévisions, d'anticiper.
Voilà, ben ça permet d'orienter les investissements, d'accompagner pas uniquement les investissements publics, d'accompagner également les investissements privés, de donner... C'est pas... Alors c'était très adapté, tous les pays en réalité l'ont fait, c'est pas une mesure du tout socialisante, enfin c'est socialisant à l'esprit, mais c'était fait par toutes les puissances capitalistes, et ça a permis quand même les 30 Glorieuses en réalité, c'était pas si obsolète que ça.
Mais c'est utile
ça
en 46, en sortant de la guerre moins... aujourd'hui, à 2 ans d'une présidentielle, c'est utile ou pas ?
Ça correspond pas tellement évidemment à la période néolibérale qui a été initiée au début des années 80, si vous voulez, avec Reagan et tout cela, puis après la liberté de circulation des capitaux, genre de choses... et la construction européenne, ça ne semble plus tellement d'actualité. Donc, est-ce que ça peut être autre chose qu'un moyen de communication ? Ce qui m'amuse un peu avec cette nomination qu'on nous annonce, donc de M. Bayrou à la tête du commissariat au plan,
qui a été très taché, dit-on, en coulisses.
Un des derniers qui a occupé le commissariat au plan, c'était une plaisanterie un petit peu de, comment dirais-je, d'une peu forme d'ironie de la part de François Mitterrand. Il avait nommé Michel Rocard en 80, je crois que c'était en 81, comme était ministre du plan. Et Michel Rocard, au contraire, lui, qui défendait, c'était le contrat, la libéralisation contre la première gauche incarnée par François Mitterrand, qui lui était plutôt la gauche planificatrice. Il avait nommé Michel Rocard. C'est assez curieux d'ailleurs aussi de nommer quelqu'un comme François Bayrou qui n'est pas du tout dans la famille de pensée planificatrice. Ouais. On verrait bien davantage un Arnaud Montebourg par exemple. Donc est-ce que effectivement cette domination laisse planer, enfin cette incarnation par François Bayrou de cette fonction, laisse planer un léger doute sur le sérieux de l'intention ?
Je voudrais qu'on termine avec vous en parlant de ce style Castex qu'on voit maintenant depuis quelques jours, la méthode. On disait encore il y a quelques heures, en tout début de semaine, on est assez loin, que ça allait être un collaborateur, on est finalement assez loin de cette image-là. On l'a vu mettre ses ministres en avant, il annonce une hausse du budget de la justice, une enveloppe pour les soignants, il y va. Laetitia Crupa.
Il est un peu obligé d'y aller. Il a tellement été précédé de tous les quolibets de celui qui allait simplement exécuter en se taisant, comme si cet homme n'avait aucune surface politique. Mmh. C'est impossible de se présenter aux Français de cette façon-là. Donc tout de suite, il a fait 3-4 interviews aux médias, mais vraiment assez fondamentales, un 20h, une grosse matinale, et ensuite il va sur le terrain. Ouais. Donc ça, c'est très très clair. Et ses messages, en fait, quand vous le regardiez sur TF1, il a tout condensé. Enfin, c'est vraiment, il a fait son storytelling, il a installé cette idée du premier ministre de la vie quotidienne des gens. Mmh. Et les lecteurs du Canard enchaîné ont lu que quelques mauvaises langues disaient que son accent était soudainement beaucoup plus prononcé ces derniers jours que d'habitude. Voilà. Donc on a compris qui était Jean Castex. Mmh. De ce point de vue-là, en termes de communication politique, cette séquence est réussie. Ouais. Il faut toujours, quand on est inconnu du grand public, se présenter et raconter l'histoire, voilà, cette histoire et ce roman national dont Emmanuel Macron est passionné d'ailleurs. Là, Jean Castex, pour l'instant, on comprend à peu près son personnage.
Jérôme Sainte-Marie, en 3 jours, il a effacé Édouard Philippe.
Oui, enfin, pour l'instant, les sondages qui ont été faits au tout début de cette période, sont assez négatifs. Je pense au sondage Elabe, par exemple. Ouais. Les Français ne sont pas du tout enthousiastes. Alors, effectivement, ils ne sont pas enthousiastes que pour deux raisons. D'une part, et là, il n'y est pour rien, Monsieur Jean Castex, il n'est pas connu des Français.
Non.
Donc il est pas. On voit surtout que les gens sont perplexes. Ouais. Mais quand même, il y a quelque chose qui le dessert, c'est qu'il voit bien que sa nomination semble indiquer que le jour d'après va quand même beaucoup ressembler au jour d'avant, que le discours sur les jours heureux tenu l'adresse présidentielle du 13 avril dernier, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui, donc il y a une petite déception. L'autre chose qui le pénalise, Jean Castex, c'est que les gens n'ont pas tellement compris la motivation du changement de Premier ministre. Ouais. Pour l'instant, Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs tout l'enjeu de son allocution du 14 juillet prochain, c'est que c'est de pouvoir trouver une justification. Les Français n'aiment pas quand il y a un changement institutionnel de ce genre sans justification. Ouais. Ils n'avaient pas aimé la dissolution en 97 dans la mesure où Jacques Chirac n'était pas capable de justifier cette dissolution. Ouais. Mais pour revenir à quelque chose d'encore plus ancien, je m'en excuse, quand Michel Rocard avait été remercié en 91 par François Mitterrand, Édith Cresson ensuite avait été fortement impopulaire, essentiellement parce que les gens n'avaient pas compris pourquoi Michel Rocard avait été démis, sinon pour des soucis de convenance personnelle du chef de l'État.
30 secondes pour terminer, Laetitia Krupa, semaine importante pour Jean Castex la semaine prochaine avec le discours de politique générale, ce sera le 15 juillet au lendemain de l'intervention télévisée du président de la République. Là, on joue gros. Hein. Le discours de politique générale, c'est face aux députés et il doit imprimer sa marque.
Oui, évidemment, et on devrait comprendre enfin à quoi va ressembler ce plan de relance. C'est surtout ça que les gens attendent. Il l'a dit, hein, il a dit, je ne suis pas ici pour avoir de la lumière, je ne cherche pas la lumière, mais des solutions, et je crois qu'il y a des résultats. Je crois que c'est ce que tous les Français attendent, voilà, des mesures concrètes. Il sera attendu vraiment sur ces points-là très concrets, des mesures, on attend des solutions.
Laetitia Krupa, Jérôme Sainte-Marie, ce soir dans Les Grandes Voix. Merci à vous deux.
Merci à vous.
À suivre, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le journal de 19h de Sébastien Krebs et ce rapport alarmant qui pointe la propagation de l'islam politique en France. A tout de suite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.